Tiens, hein, qu'on va mettre au travail maintenant, c'est Alain Baraton à 8h moins le quart.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Bonjour mon cher Alain.
Bonjour, mais ce n'est pas du travail d'être ici ce matin, c'est du plaisir.
Eh bien, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on lisait dans cette revue, exactement. Alain, à propos des gardiens de square ce matin, d'ailleurs le mot square, hein, ça vient de l'anglais, une place carrée.
Allez, square. Et en français, des jardins de dimension le plus souvent modeste, situés en principe au milieu d'une place. Ils sont généralement clôturés et appartiennent toujours à la commune. Alors il y a un exemple qui illustre parfaitement mon propos, à savoir le square Louis XIII, implanté au beau milieu de la place des Vosges, en plein cœur de Paris.
Et cette place est la plus ancienne de la capitale ?
Elle a été voulue par Henri IV pour y organiser des fêtes et améliorer le cadre de vie des habitants, mais il n'assistera pas à son achèvement. Il meurt, rappelez-vous, en 1610, Ravaillac, rue de la Ferronnerie, et la place, elle, est achevée en 1612. Alors, à l'origine, ce grand espace parfaitement carré de 140 mètres de côté est recouvert en grande partie de sable. C'est ici que l'on organisait les carousels, les tournois et parfois même les duels, même s'ils étaient interdits.
Et à la place des Vosges à Paris, on y trouvera aussi la maison de Victor Hugo. Un changement d'aspect en 1682 quand cette place, quand il y est décidé d'aménager un jardin.
Juste une petite parenthèse pour ce que vous venez de dire. La maison Victor Hugo, où il y a une petite cour juste à côté de cette maison, que Victor Hugo empruntait quand ils allaient voir des maîtresses. Les marronniers, il y en a trois je crois dans la cour, sont toujours vivants et la cour fait l'objet de quelques restaurations. Il sera bientôt possible de découvrir
de
cette
course. Des choses à raconter, ces marronniers.
Alors, tout à fait. 1682, on installe un jardin.
Et oui, et ce pour répondre aux demandes des riverains qui souhaitent avoir sous leur fenêtre un espace de qualité et un lieu de promenade. L'endroit est simple, 4 carrés gazonnés, mais le jardin a tellement de succès qu'il est rapidement placé les grilles pour en contrôler les accès. Les élégantes, qui aiment venir s'y promener, redoutent les effets du soleil. Sur la peau aussi, par peur de ressembler à des paysannes, elles demandent et obtiennent qu'il soit planté des arbres, des tilleuls taillés en marquise, c'est le nom de la taille.
D'accord. Et à l'entrée de ce jardin, il y a une affichette avec un règlement de visite.
Il est clairement indiqué qu'il est par exemple interdit de piétiner les pelouses, de se livrer à des jeux quels qu'ils soient, et d'y venir mal habillé, sauf le 25 août, où l'accès est libre pour tous, riches ou pauvres et pour cause, le 25 est le jour de la Saint-Louis.
Et sauf que malgré toutes ces recommandations, les dégradations sont nombreuses.
Et c'est ainsi qu'est créé en 1738 le tout premier emploi de gardien de square par le bureau de la ville de Paris. Le métier depuis a changé, on parle d'agents d'accueil et de surveillance, mais leur mission est toujours restée la même, protéger et surveiller les jardins. Et quantité de films, quantité d'écrivains, on parlait des gardiens de square, souvent ce sont des personnages truculents qui ont beaucoup de choses à nous raconter.
Et malheureusement on ne parle plus de gardiens, on parle d'agents maintenant un peu partout.
C'est un peu triste.
Alain Baraton, vos conseils à présent, vos recommandations, aux questions, interrogations des auditrices et auditeurs de France Inter. Enguerrand vous demande s'il est possible de semer des fleurs sur un gazon sans avoir à le refaire.
Déjà, il est même fortement conseillé. Les gazons vers où il n'y a que de l'herbe sont un petit peu tristounets. Deux cas de figure. Soit vous laissez la pelouse prendre quelques libertés au printemps et en été. Vous attendez avant de tondre et vous verrez qu'il va apparaître quantité de fleurs tout seul. Vous n'avez pas grand chose à faire. Mais pour qu'il y ait l'année suivante d'autres fleurs, il faut qu'elles aient eu le temps de déposer les graines, donc ne tondez pas trop fréquemment. Il est toutefois possible de semer, de rajouter les petites fleurs, je pense aux petites violettes délicieuses. Il suffit simplement de griffer au printemps, mai ou juin, la surface de la terre. Vous mettez quelques petites graines, vous mettez un petit peu de terreau, vous arrosez, vous tapez dans les mains régulièrement pour faire fuir les oiseaux qui aiment les petites graines, et vous obtiendrez effectivement un joli gazon fleuri tout le reste de l'année.
Bénédicte nous écrit d'étrangers, je crois que c'est en Tunisie, elle vous demande pourquoi les gousses de mes haricots à rames sont-elles vides quand je les plante à Paris ?
Eh bien certainement qu'il y a eu trop d'engrais. Ce sont des plantes qui fixent la terre, qui sont capables d'en produire, qui produisent de l'azote dans le sol et qui détestent en recevoir. Si vous mettez du fumier mal décomposé, si vous mettiez de l'engrais trop azoté, eh bien la plante produit effectivement des fruits, des gousses, mais à l'intérieur pas de graines. Voilà le pourquoi. Il faut toujours apprendre à connaître le végétal.
Le haricot à rame.
C'est le grand haricot, c'est celui que l'on dresse généralement sur des tuteurs, qui produit des grands haricots, souvent que l'on consomme secs, et qui sont vraiment délicieux, qui ont quelques qualités un peu plus redoutées après un repas, mais ce sont des... Oui, bah oui, bah, Madame Martin, de temps en printemps.
Mais j'ai rien dit.
Provoque... Non,
mais
vous levez les yeux au ciel, Madame Martin.
Oui, vous faites allusion aux flatulences, très certainement. C'est un
problème
du haricot. Mais c'est très bon, les haricots.
Aude, elle produit des carottes dites normales. Je n'arrive pas à produire de carottes normales, au final. Elles sont toutes tordues, mes carottes. Pourquoi, vous demande Aude?
Eh bien, là encore, à nouveau, soit du fumier mal décomposé dans la terre, et la carotte se dégénère quelque peu, et la présence de cailloux.
Mais on s'en fiche un peu que les carottes soient pas
Non, mais oui, mais elles sont tordues aussi grosses, et des fois, elles sont un peu... Ah. Elles sont moins... Puis, attendez, essayez d'éplucher des carottes. On voit que vous ne faites pas souvent la cuisine.
Non, mais c'est vrai, si, parce que je comprends bien pourquoi.
Alors là, je m'inscris en faux. Éric Delvaux fait la cuisine.
Ça m'arrive, c'est pas...
Peler des carottes tordues avec un économe, je ne fais jamais la cuisine, c'est des questions de principe. Je ne m'occupe jamais d'intendance.
Non, mais
c'est
n'importe quoi.
Et donc...
Vous avez bu, Alain, c'est pas possible.
Non, mais pas du tout. Non, mais
c'est la vérité.
Non, mais je fais rarement la cuisine. Je préfère ceux qui savent le faire.
C'est ça, vous claquez les doigts. Vous mettez les doigts et ça vient tout seul.
Quand on a épousé une sainte,
les carottes normales, les carottes tordues.
Pas trop d'engrais pour les carottes. On débarrasse le sol de tous les cailloux et on distance les carottes. Juste un petit truc que j'ai souvent donné pour avoir des semis de carottes et éviter de séparer ensuite pour qu'elles puissent se développer. Vous mettez des radis. Les radis en 15 jours, 3 semaines sont à maturité. Quand vous mettez donc, vous semez carottes et radis.
En même temps.
Oui,
on alterne.
En même temps. Comme ça, vous récupérez les radis. En retirant le radis, vous laissez un petit peu de place entre les carottes. Ah. C'est une manière de les distancer naturellement.
Bien vu. Émile vous demande quel est le meilleur produit pour désinfecter les peaux.
Le soleil. On vend aujourd'hui des désinfectants de peau. Ça ne sert absolument à rien. Vous avez un pot en terre. Vous décidez de le désinfecter parce qu'il y a eu des petites bestioles. Vous le mettez dans votre jardin ou sur votre terrasse toute la journée quand le soleil tape. Ça suffira amplement. Je voudrais simplement en profiter. On a tous entendu parler de cette fameuse bactérie tueuse au niveau des oliviers.
Des oliviers, oui.
Que l'on arrête de se balader partout en France avec des végétaux que l'on transporte d'une pépinière à l'autre. On achète régionaliste, on arrête de transporter les plantes. La situation est grave.
Elisabeth veut vous parler de son péché. Elle a planté un pêcher près d'un laurier rose. Alors les pêches, certes, elles mûrissent bien, mais elles ont un goût très amer. Elisabeth vous demande si ce ne serait pas dû à la proximité de ce laurier rose.
Ça serait marrant de planter les pêchers près d'un pied de menthe. Il y aurait peut-être un goût de menthe dans la pêche. Non, je ne crois pas qu'il y ait une relation. Il y a des variétés de pêche qui changent en fonction de l'ensoleillement, de l'eau, du terrain et de quantité de critères.
Et l'amertume de la pêche, on ne sait pas très bien.
Voilà, je pense de temps en temps qu'il y a des critères qu'on ne contrôle pas. Et juste un mot, si vous le permettez.
Allons-y.
C'est depuis hier, le 24e Festival des Dahlias et Jardins. Donc c'est à Coutances, c'est au lycée agricole et c'est dans la Manche.
Et on ira donc un été, enfin c'est encore l'été, à Coutances.
Bah oui, oui.
Comme chantait Dick Angarn, me semble-t-il.
Tout à fait.
Merci Alain Baraton, on vous retrouve samedi prochain.
Avec plaisir.
Avec plaisir, évidemment.